إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبحمد الله عز وجل نواصل قراءة رسالة أو قراءة رسالة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهي أصول في التفسير. أصول في التفسير، والحمد لله ذكرنا المقدمة، القرآن الكريم، وقلنا إن القرآن في الشرع هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بصورة الفاتحة، المختوم بصورة الناس. Donc on poursuit بإذن الله عز وجل notre étude des fondements du tafsir du très grand savant Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Donc on avait évoqué l'introduction, tout d'abord le sommaire, puis l'introduction du livre de cette épître concernant Al-Qur'an, concernant le noble Coran. Et on avait dit que la définition du Coran dans la terminologie religieuse, c'est la parole d'Allah. C'est bien sûr la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala descendu sur son messager et sur le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il commence par la sourate al-Fatiha et se termine par la sourate al-Nas. On peut rajouter également que ce n'est pas une créature. Le Coran, contrairement à ce que prétendent certains groupes égarés de l'islam, le Coran n'est pas une créature, mais c'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tayyib. Donc on avait dit que la parole, le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit également que l'attribut de la parole, bien sûr, a toujours existé en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est en même temps un attribut d'entité intrinsèque à Allah Jalla wa Ala, ne se séparant jamais d'Allah Jalla wa Ala. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours eu cette aptitude et cette capacité qui est la parole, mais concernant le Coran, c'est un attribut d'action. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala a prononcé les paroles qu'il y a dans le Coran à des moments et pas à d'autres. De la même façon qu'il a prononcé At-Tawrat à des moments et pas à d'autres. Il a prononcé l'Injil, les évangiles, à des moments et pas à d'autres. Au Zabur de Dawoud, à des moments et pas à d'autres. Donc bien faire la différence entre la sifat, l'attribut de la parole qui a toujours existé en Allah subhanahu wa ta'ala, wa Allah jalla wa ala min asma'ihi al-baqi, wa al-baqa, wa ziddu al-fana, wa Allah jalla wa ala huwa al-baqi, alladhi la ibtada'a لوجوده والذي لا يقبل الفناء والموصوف بالبقاء الأزلي من أبد الأبد إلى أزل الأزل، فدوامه في الأزل هو القدم، ودوامه في الأبد هو البقاء. Donc l'attribut de la parole c'est un attribut qui est éternel, qui a toujours existé. طيب. Donc parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-baqi, al-baqi, donc al-baqa, qui veut dire la pérennité ou l'éternité ici, c'est le contraire de al-fana, c'est-à-dire quelque chose qui est éphémère et qui disparaît. Na'am. Quelque chose qui ne dure pas, qu'on pourrait traduire par la mortalité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est immortel et qui a toujours existé, qui n'a pas été précédé par l'inexistence, comme les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, c'est al-baqi, celui qui n'a pas de commencement, celui qui n'a pas de fin au niveau de son existence, et celui qui n'est pas sujet à la mortalité ou à la disparition. Au contraire, donc, il est attribué par l'attribut de al-baqa, c'est-à-dire l'immortalité, la pérennité éternelle, sans fin. Et également, c'est celui qui a toujours existé, qui n'a pas de commencement, et qui n'est pas précédé par l'inexistence. Donc, sa pérennité, ici, elle est éternelle, que ce soit au niveau du commencement ou au niveau de la fin. Allah n'a pas de commencement et Allah n'a pas de fin. Il a toujours existé. Donc également, la sifat, l'attribut de la parole, elle est similaire à celle-là. L'attribut de la parole a toujours existé en Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Mais le Coran, les paroles qu'il y a dans le Coran, les versets qu'il y a dans le Coran, bien sûr, ont été, elles, prononcées à des moments et pas à d'autres. Ça y est. Donc bien faire la différence entre ces deux-là. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الثالث في الباب الثالث نزول القرآن ابتدائي والسببي. Donc dans le troisième chapitre intitulé la descente du Coran peut être soit ibtidai, c'est-à-dire de première instance. Et on va expliquer ce que ça veut dire ibtidai, de première instance, soit sababi, soit causé par un événement, sababi. Yani sa descente, elle a une cause. D'accord? Donc soit ibtidai, qu'on pourrait expliquer par également sans cause particulière, soit sababi, ayant une cause. طيب. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ينقسم نزول القرآن إلى قسمين. القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آية القرآن، ومنه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فنصدقن ولنكونن من الصالحين، فإنها نزلت ابتداء هذه الآية نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة ابن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. Donc il dit le Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala que la descente du Coran, elle se divise donc en deux, où il y a deux catégories différentes de descente du Coran. La première catégorie, celle qui est ibtida'i, c'est-à-dire de première instance, c'est-à-dire qui n'a pas d'événements particuliers l'ayant précédé. Il dit les chers, donc c'est ce qui n'a pas été précédé par une cause nécessitant sa révélation ou sa descente. Il dit les chers, et ceci est le cas de la plupart des versets coraniques. Et parmi eux, la parole d'Allah Jalla wa Ala dans la surat At-Tawbah, dans le sens rapproché du verset Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et parmi eux, il en est qui avaient pris l'engagement envers Allah, s'il nous donne de sa grâce, nous serions certes charitables et serions du nombre des gens de bien. Et parmi eux, il en est qui avaient pris l'engagement envers Allah, s'il nous donne de sa grâce, nous serions certes charitables et serions du nombre des gens de bien. Donc ce verset-là a bel et bien été descendu en première instance, c'est-à-dire sans événement particulier l'ayant précédé. Car il a été descendu sur, il dit les chers, sur le cas de certains hypocrites. Quant à ce qui est connu et propagé, comme quoi ce verset-là aurait été descendu sur ou par rapport à un compagnon s'appelant Tha'laba ibn Hatib, radiallahu anhu. Donc une chose que l'on trouve dans un récit qui est long, un récit qui est rapporté par de nombreux exégètes dans leur tafsir, tel que l'imam al-Qurtubi, ou Ibn Kathir, ou Ibn Abi Hatim, rahimahumullah, un récit que beaucoup de prédicateurs diffusent et mentionnent dans leurs sermons ou dans leurs cours, il dit le Cheikh al-Uthaymin, ce récit il est faible et n'a aucun fondement. Ce récit il est faible et n'a aucun fondement. Donc ce verset-là n'a pas été descendu par rapport à Tha'laba ibn Hatib, radiyallahu anhum. Mais il a été descendu sur des hypocrites, donc sur lesquels Allah Jalla wa Ala a descendu ses bienfaits, ses faveurs, etc. Mais qui malgré ça ont refusé d'être charitables et de faire partie des gens vertueux. Taïb. Naam. القسم الثاني سببي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه والسبب ألف إما سؤال يجيب الله عنه مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فهذا مما سأله عنه اليهود واعترضوا به على النبي صلى الله عليه وسلم فقال معاذ يا رسول الله إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة فما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يستوي ويستدير ثم ينتقص حتى يعود كما كان فأنزل الله جل وعلا هذه الآية وقيل إن سبب نزولها سؤال قوم من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال وما سبب محاقه وكماله ومخالفته لحال الشمس فقاله ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم تفسير القرطبي نعم puis la deuxième catégorie donc la descente de verset qui est sababi qui est causé par un événement qui est précédé par un événement. On l'appelle sababi. Taïeb, un événement qui donc a nécessité la descente de certains de ces versets. Donc sabab, la cause, soit premièrement, donc premier type de cause, il dit le shaykh, une question qu'on a posée au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à laquelle Allah Jalla wa Ala a répondu. À laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a répondu. Comme le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Baqarah, dans le sens rapproché, il t'interroge au sujet des nouvelles lunes. Il t'interroge au sujet des nouvelles lunes. Al-Ahilla, le pluriel des Hilal. Allah, qu'est-ce qu'il lui dit? Qul dit, ce sont, yani, mawaqid, c'est-à-dire, des moyens de calculer le temps, de calculer le temps et d'avoir un calendrier, voyez, ceci pour les gens Et le pèlerinage. Que le pèlerinage, yani, on a besoin justement de connaître ce calendrier, le calendrier annuel, le calendrier mensuel, le calendrier yani, hebdomadaire, etc. Et cela, on les connaît grâce justement à la vision des nouvelles lunes, des Ahilla. Taïe. Donc, cette question-là, certains disent qu'elle a été posée par Al-Yahoud, les Juifs, taïe, qui se sont servis de ce sujet-là pour s'opposer au prophète. Il a dit Mu'adh, radiyallahu anhu, ya Rasulallah, au messager d'Allah, certes, les Juifs nous posent beaucoup de questions, abondent dans leur questionnement à ce sujet-là, à propos justement des nouvelles lunes. Qu'est-ce que Al-Hilal, comment ça se fait que la lune, lorsqu'elle apparaît, elle est fine, puis elle grandit jusqu'à devenir pleine, et puis elle diminue jusqu'à ne plus revenir. Vous voyez, comme elle était avant. Donc Allah Jalla wa'ala a révélé ce verset-là par rapport à ça. D'autres disent que la cause de cela, eh bien, c'est la question qui a été posée par certains parmi les musulmans. Certains parmi les musulmans étaient allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser cette question-là au sujet de Al-Hilal, la nouvelle lune. Et quelle est la cause, justement, de sa diminution, de son agrandissement, de sa complétude, et pourquoi elle est tellement différente, yani, du soleil, etc., etc. Al-Muhim, ici, donc, la cause de ce verset-là, on voit bien que c'est le questionnement de certains, yani, au sujet de Al-Hilal, la nouvelle lune. Ben, إذن النوع الثاني من الأسباب حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مثل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب فالآيتان نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه بقوله تعالى أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. Puis il dit deuxième type de cause entraînant la descente, yani des versets, un événement qui s'est produit et qui nécessite une clarification et une mise en garde. Un événement qui s'est produit et qui nécessite une clarification et une mise en garde. Comme la parole d'Allah Jalla wa'ala, surat At-Tawba, verset 65, dans le sens rapproché, il dit Allah, « Et si tu leur demandes, ils te diront, nous ne faisions certes que bavarder et jouer. » Nous ne faisions certes que bavarder et jouer. Donc ce verset-là, ou ces versets, ont été descendus sur un homme, parmi les hypocrites, qui avait dit, durant l'expédition de Tabouk, en l'an 9 de l'Égypte, qui avait dit dans une assemblée, nous n'avons pas vu parmi nos lecteurs, les lecteurs du Coran, des gens plus gourmands, plus menteurs, plus lâches lors de la rencontre avec l'ennemi que ceux-là. Il voulait parler, a'oudhu billah, dans ses propos, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons, radiyallahu anhum. Et donc, cette information-là est parvenue aux oreilles, bien sûr. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, est parvenu, yani, par révélation, Allah, jalla wa ala, lui-même, a révélé à Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il avait dit. Et le Coran, donc, est descendu après cet événement-là, puis, cet homme qui avait prononcé ça est allé voir le prophète pour s'excuser. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, est-ce d'Allah de ses versets et de son messager que vous vous moquez? Est-ce d'Allah, de ses versets, de son messager que vous vous moquez? Puis il a dit, « La ta'tadhiru, ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir cru. La ta'tadhiru, qad kafartum ba'da imanikum. » Donc là, on voit ici que ce verset-là a été révélé après un événement particulier qui a nécessité un exposé et une mise en garde claire de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jim, ou fi'lun waqi'un yahtaju ila ma'rifati hukmi, mithla qawli. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Troisième type de cause, une action qui s'est produite et qui nécessite que l'on connaisse son jugement. Une action qui s'est produite et qui a nécessité que l'on connaisse son jugement. Tel que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Mujadala, dans le sens rapproché, Allah a dit, Allah a certes entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux, et elle se plaint à Allah jalla wa ala, et Allah entend votre conversation, et certes Allah, il est audient et clairvoyant. Il entend tout et il voit tout. Taïd, allati, اشتكت إلى الله جل وعلا في هذه الآية هي خولة بنت ثعلبة وقيل بنت حكيم وقيل اسمها جميلة وخولة أصح وزوجها أوس ابن صامت أخو عبادة بن صامت وقد مر بها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في خلافته والناس معه على حمار فاستوقفته طويلا ووعظته وقالت يا عمر قد كنت تدعى عميرا ثم قيل لك عمر ثم قيل لك أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت ومن أيقن بالحساب خاف العذاب وهو واقف يسمع كلامها فقيل له يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف فقال والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة أتدرون من هذه العجوز هي خولة بنت ثعلبة سمع الله قولها من فوق سبع السماوات أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر فقالت عائشة أيضا رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها أو هي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظهر مني اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله خرجه ابن ماجه في السنن والذي في البخاري من هذا عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهذا في تفسير القرطبي. Donc ici par rapport au récit, à l'anecdote concernant cette femme qui est Khawla, Khawla bint Thalaba. Donc c'est par rapport à elle que ce verset-là il a été descendu. Par rapport à elle que ce verset-là a été descendu. Donc, à la base, en fait, qu'est-ce qui a provoqué la descente de ce verset-là? Eh bien, c'est le fait qu'elle s'était plaint à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à son époux. Donc, cette femme s'appelait Khawla bint Thalaba.
Certains disent Khawla bint Hakim. Certains disent qu'elle s'appelle Jamila. Mais ce qui est le plus juste, c'est qu'elle s'appelle Khawla. Et son mari s'appelait Aws ibn Samit, qui est le frère de Ubada ibn Samit. Voyez? Donc elle s'était plaint, pour ceux qui veulent yani, revenir à cet événement, revenez yani, au tafsir de ce verset-là, de l'imam Sa'di ou d'Ibn Kathir, Allah Ta'ala ou d'autres. Voyez? Donc c'est une femme qui s'était venue et qui s'était plaint par rapport à son mari, car son mari s'était juré yani, de ne plus la toucher. Hein, c'était juré de ne plus la toucher. Et comme il faisait à l'époque, yani, il comparait leur femme au dos de leur mère, en gros pour dire qu'ils ne la toucheront plus. Voyez? Et donc cela a entraîné hein, la descente des versets que l'on trouve dans la sourate Al-Mujadala. Voyez? Dedans, donc on voit on apprend dans cette sourate, on apprend le jugement justement de cette façon de faire de certains hommes envers leurs épouses. C'est ce qu'on appelle en arabe Al-Zihar. Al-Zihar, donc c'est une chose qui se faisait par les hommes avec leurs épouses, qui se juraient de ne plus jamais avoir de rapport avec elles ou de les toucher. Et Allah Jalla wa'ala donc a descendu ce verset-là pour donner le jugement justement de cette chose et interdire cela, alhamdoulilah, et détailler ce qu'il fallait faire pour expier cette chose-là et ce genre de paroles. Et une anecdote, masha'Allah, rapportée ici dans l'explication des paroles de Cheikh, rahimahullah ta'ala. Un jour, il y a Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, à l'époque de son khilafa, lorsqu'il était donc un khalife, un calife. Et les gens étaient avec lui. Taïeb. Et lui, il était, donc il est passé comme ça. Et subhanallah, il est passé devant cette femme, Khawla. Donc il était, à cette époque-là, elle était déjà très âgée. Hein? Elle était déjà très âgée. Donc c'était bien après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et celle de Abu Bakr, radiallahu anhu. Donc il est passé devant elle, et elle a arrêté. Elle a arrêté Omar. Très longtemps, elle a commencé à le sermonner. Elle lui a dit, Ya Omar, avant, on t'appelait Umair. Vous voyez, Umair, lorsqu'il était petit, on l'appelait Umair. Puis on t'a appelé Omar, lorsque tu es devenu adulte. Et maintenant, on t'appelle le chef des croyants, Emir al-Mu'minin. Il lui a dit, crains donc Allah, Ya Omar, crains Allah. Car celui qui est certain de la mort, il doit avoir peur de l'échec ou de la perte. Et celui qui est certain du jugement, il doit avoir peur du châtiment. Et lui, il restait, Omar, devant cette femme qui était donc âgée, une vieille femme. Taïeb, il restait debout à écouter ses paroles. Puis on lui a dit, ô chef des croyants, tu restes debout devant cette vieille femme? Aussi longtemps, yani, à écouter ses paroles, sans rien dire? Et là, il lui a dit, par Allah, si elle m'avait retenu du début de la journée jusqu'à la fin de la journée, je serais resté debout. Et je ne serais pas parti si ce n'est pour les prières obligatoires. Savez-vous qui est cette vieille femme? Il lui a dit. Il leur a dit, savez-vous qui est cette vieille femme? Il a dit, c'est Khawla bint Tha'laba. Sa parole a été entendue par Allah subhanahu wa ta'ala par-dessus des sept cieux. C'est-à-dire, elle a été écoutée par Allah subhanahu wa ta'ala par-dessus des sept cieux. Et Allah jalla wa ala a mentionné cette parole-là dans le Coran. Il lui a dit, le Seigneur de l'univers a écouté ces paroles et moi je ne vais pas les écouter. Puis, Aïcha, radiallahu anha, a aussi rapporté et a dit que soit dénué de toute imperfection celui dont l'ouïe, la faculté d'entendre, englobe toute chose. Elle dit, moi j'ai certes entendu certaines paroles de Khawla bint Tha'laba, parce que Khawla, lorsqu'elle parlait avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc ils étaient dans la maison du prophète, il y avait Aïcha à côté. Aïcha dans un côté de la maison, et le prophète il parlait donc avec Khawla. Elle a dit, j'entendais ce que disait Khawla, mais il y a quelques paroles que je n'entendais pas. Yani Aïcha, elle n'arrivait pas à entendre tous les mots que prononçait Khawla, bien qu'elle ait été dans la même pièce ou dans la même maison. Donc elle dit, elle se plaignait par rapport à son mari, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, au messager d'Allah, il a kala shababi, c'est-à-dire il était avec moi durant ma jeunesse, j'ai dépensé ma jeunesse pour lui, je lui ai fait des enfants, et maintenant que je suis vieille, et que je ne peux plus avoir d'enfants, dhahara minni, il s'est juré de ne plus jamais me toucher. Dhahara minni. Oh Allah, elle a dit, oh Allah, je me plains à toi. Et elle n'arrêtait pas de se plaindre comme cela jusqu'à ce que Jibril alayhi salam descende avec ce verset-là, qui est, Allah a certes entendu la parole de celle qui a discuté avec toi à propos de son mari et qui se plaint à Allah jalla wa ala. Voyez? Aïcha, elle a dit, louange à Allah, dont lui englobe tous les sons, quels qu'ils soient. Al-Mujadila, c'est-à-dire la Khawla, elle est venue se plaindre auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et moi j'étais dans un coin de la maison, voyez, ma asma'u ma taqoul. J'étais un coin de la maison, et je n'entendais pas tout ce qu'elle disait. Et Allah, jalla wa ala, lui, il a descendu, Allah a certes entendu la parole de celle qui s'est plaint ou qui a discuté avec toi au sujet de son mari. Voyez. Donc là, on voit encore une fois ici également que le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été prononcée à des moments bien précis et dans une chronologie. La preuve, c'est qu'ici Allah dit qad sami Allah. Allah a entendu la parole de Khawla. Ça veut dire que la parole d'Allah, celle-là, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a été prononcée par Allah après la discussion qu'il y a eu entre Khawla et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'avant que Khawla n'ait discuté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette parole-là n'a pas été prononcée par Allah. Elle n'a été prononcée par Allah qu'après. Voyez? Donc cela est une réfutation contre les gens qui prétendent que le Coran serait une parole qui existait depuis toujours. Yani en Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas quelque chose qui a été prononcé à certains moments et pas à d'autres, et qu'Allah jalla wa ala ne parle pas. Na'oudhu billah. Tayyib. Thumma yaqul min fawa'id ma'rifati asbab an-nuzul. Ma'rifatu asbab an-nuzul muhimmatun jiddan. لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها. Il dit maintenant les profits de la connaissance des causes de la descente des versets. À quoi ça sert? À quoi ça sert de connaître les causes de la descente de certains versets? Hein? Yani, par exemple, ici, la mathalan, à quoi ça sert de connaître l'histoire de Khawla bint Tha'laba par rapport à ce verset-là? Il dit, premièrement, bayanu anna al-Qur'an nazala min Allah. Wa dhalika li anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yus'alu 'an ash-shay. Fa yatawaqqafu 'an al-jawab ahyanan hatta yanzila 'alayhi al-wahy. أو يخفى الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت وفي لفظ فأمسك. النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. نعم هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. Donc il dit premièrement les profits de se connaître les causes des descentes des versets, eh bien que l'on sache et que l'on soit certain que le Coran il vient d'Allah. Le Coran il vient d'Allah Jalla wa Ala. C'est là car le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait être interrogé sur une chose et souvent il ne répondait pas. Il ne répondait pas dans certains cas jusqu'à ce que la révélation lui vienne. Jusqu'à ce que la révélation lui vienne. Donc il était interrogé et il ne s'avançait pas. Et il attendait que la révélation lui soit révélée, lui soit descendue. Ou alors parce que la réalité lui était ignorée. Donc il attendait pour que Allah Jalla wa Ala lui clarifie la réalité et la vérité. Donc exemple de question qui lui a été posée et pour lesquelles il s'est abstenu de répondre. La parole d'Allah Jalla wa Ala de la sainte rapprochée sourate al-Isra. Et il t'interroge au sujet de l'âme, Ruh. Dit, l'âme fait partie des créatures de mon Seigneur. Et on ne vous a donné de la science que très peu. Dans le Sahih al-Bukhari, ainsi que Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu an, un homme parmi les Juifs avait dit, Ya Abul Qasim, Ya Abul Qasim, donc Abu al-Qasim, hein, c'est la kunya de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que l'âme? Hein, donc ce juif-là a posé la question au prophète. Qu'est-ce que l'âme? À quoi ressemble l'âme? Comment est l'âme? Et là le prophète il s'est tu et a gardé le silence. Et ne lui a pas répondu. Et là Ibn Mas'ud il a compris. Il a dit à ce moment-là, j'ai su qu'une révélation allait être descendue. Et je suis resté à ma place. Hein? Et puis, lorsque la révélation a été descendue, le prophète, il a dit, « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي » Et il t'interroge sur l'âme, dit « L'âme fait partie des créatures de mon Seigneur. » نعم. ومثال ثاني, قوله تعالى, « يقولون لَإِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ليخرجن الأعز منها الأذل. وفي صحيح البخاري أن زيد ابن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين يقول ذلك يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع ثم أرسل إلى عبد الله ابن أبي طيب ابن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية فاستبان الأمر لرسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième exemple, Tayyib, venant illustrer le fait que le prophète, des fois, lorsqu'on lui posait une question, il se peut qu'il ne connaissait pas la réalité de la chose. Donc, Allah Jalla wa Ala descendait un verset pour lui clarifier et lui montrer la vérité. Pour pas qu'il reste dans l'ignorance d'une réalité. Vous voyez? Donc cet exemple, le verset dans la sourate al-Munafiqun, où Allah Jalla wa Ala, il dit dans le sens rapproché, ils disent, certes, si nous retournions à Al-Médina, le plus fort fera sortir le plus faible. Le plus fort fera sortir le plus humble, le plus vil. Voyez? Donc, dans le Sahih de Bukhari, on apprend que ce verset-là a été descendu après un événement particulier. C'est quoi cet événement-là? C'est lorsque Zayd ibn Arqam, radiallahu anhu, avait entendu Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le leader des hypocrites, la tête des hypocrites, dire cela. Il avait dit donc, si on retournait à Al-Médina, hein, eh bien le plus fort fera sortir le plus faible. Et pour eux, le plus fort, c'était lui. C'était Abdullah ibn Ubay. Et le plus faible, il voulait parler de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, radiallahu anhum. Et donc Zayd ibn Arqam a informé de cela son oncle d'abord, qui en a informé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, il a fait appeler Zayd ibn Arqam, et il lui a dit cela. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il a envoyé des gens chez Abdullah ibn Ubay et ses compagnons et ses amis, yani. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hypocrites? Ils ont juré sur Allah qu'ils n'ont jamais dit ça. Ils ont juré sur Allah qu'ils n'ont jamais dit cela. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a cru. Il les a cru. La personne jure devant lui, il a cru. Et c'est là qu'Allah, Jalla wa'ala, il a descendu ce verset. Il a descendu ce verset accréditant la parole de Zayd ibn Arqam dans ce verset-là. Et là, à ce moment-là, bien sûr, le prophète, il a connu la vérité. Et il a appris la vérité à travers le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ici que, hein, ici le verset, il a été, il fait suite à cet événement-là, un événement qui a fait que le prophète ignorait certaines choses. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il clarifiait à travers la descente de ce verset-là. Il donne une fawaïd, معرفتنا لهذه الأسباب أن نعرف أن هذا القرآن كما قال الشيخ سعد الشثري حفظه الله تعالى أن هذا القرآن نزل من عند الله هذا القرآن نزل من عند الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم في الحوادث ابتداء بل توقف حتى نزل إليه الوحي حتى نزل إليه الوحي بحكم هذه النوازل مما يدل على أن هذا النازل ليس من عند النفس وإنما هو من عند الله ومن المعلوم أن من طبيعة الإنسان خصوصا الراغب في العلو أن يدعي معرفة كل شيء فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف حتى ينزل إليه القرآن دليل على أن هذه الشريعة المباركة أن على أن هذه الشريعة المباركة من عند الله تبارك وتعالى وأن هذا القرآن هو كلام رب العزة والجلال. Il dit le Cheikh Saad al-Shathri rahimahullah ta'ala wa hafidha que parmi les profits donc de connaître les causes de descente des versets, que l'on sache que le Coran est descendu de la part d'Allah. Est descendu de la part d'Allah jalla wa ala, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas des jugements sur des événements et sur des situations en première instance. Au contraire, il s'abstenait. Il s'abstenait jusqu'à ce que la révélation lui parvienne. Jusqu'à ce que la révélation lui parvienne. Et à ce moment-là, donc, il pouvait émettre un jugement par rapport à la révélation, à la sentence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Et cela nous montre donc que ces jugements-là ne viennent pas de lui, mais elles proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est connu que, notamment chez le naturel de l'être humain, surtout celui qui cherche à s'élever en prétendant connaître toute chose, vous voyez, bien la personne ne va pas s'abstenir de répondre ou de parler ou de prendre position ou de se mêler. Vous voyez, donc là, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'abstenait et se taisait et gardait le silence en attendant la révélation d'Allah jalla wa'ala montre bien que hein, la législation vient d'Allah. Et que le prophète ne parlait pas sous l'effet de la passion, mais seulement yani, par le biais de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète, lui, s'abstenait jusqu'à ce que le Coran les soit révélé, les versets les soient révélés. Cela est une preuve que cette sharia, cette législation bénie, provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ce Coran n'est que la parole d'Allah. Que ce Coran n'est que la parole du Seigneur, yani al-Aziz, le majestueux, le fort et le dominant. Naam. Tayyib. Alhamdulillah. قد أتوقف على هذا القدر إن شاء الله تعالى والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته